Bon matin. Quand on est ici, on ne vous voit pas, mais je crois que vous me voyez, on rend grâce à Dieu. Ça me fait plaisir d'être là ce matin avec vous et de poursuivre l'exposé qui a été commencé il y a déjà plusieurs semaines. Donc, nous avons le privilège ensemble ce matin de pouvoir poursuivre dans la parole de Dieu au travers du livre de Exode. Et jusqu'à présent, on a quand même couvert un certain nombre de... Vous m'entendez toujours? Allô? Allô, allô? Bon, ça, c'est revenu. Parfait. Donc, je disais qu'on va poursuivre l'exposé du livre d'Exode. Et jusqu'à présent, on a quand même couvert un certain nombre de chapitres dans le livre d'Exode et on va le poursuivre. Et ce matin, particulièrement... on va poursuivre le bras de fer qu'on a déjà commencé entre le peuple de Dieu, en particulier Moïse et Pharaon. Et dans ce bras de fer, aujourd'hui, les chapitres qu'on va couvrir vont nous amener à un point tournant dans le bras de fer qui oppose Pharaon avec le peuple de Dieu, avec Moïse. Et dans ce bras de fer, quand on a commencé les trois premières plaies qu'on a regardées ensemble, on a vu que quand les plaies arrivaient en Égypte, autant le peuple de Dieu que les Égyptiens étaient tous les deux atteints par ou souffraient des conséquences de ces plaies. Mais dans les plaies qui ont suivi à partir de la plaie 4, dans les plaies qui ont suivi, on a vu qu'il y avait quand même une différence. Dieu commençait à mettre une différence entre son peuple et les Égyptiens, c'est-à-dire le Pharaon, ses serviteurs et les Égyptiens. Il y avait une différence. Le peuple de Dieu ne souffrait plus exactement des mêmes conséquences des différentes plaies qui étaient envoyées sur l'Égypte. Et aujourd'hui, nous allons voir que cette tendance que Dieu a commencée déjà dans les trois dernières qu'on a vues va se poursuivre et va prendre même de l'ampleur. Et on va voir qu'est-ce que Dieu va faire dans cela. Le peuple de Dieu va donc avoir nettement une différence, va comprendre la différence qu'il y a de lui appartenir ou de ne pas lui appartenir. Et dans ce bras de fer, la tension était tellement forte. Même si le peuple de Dieu était épargné, les Égyptiens, eux, ils subissaient de plus en plus et chaque jour encore les conséquences les plus graves des différentes plaies qui étaient envoyées sur l'Égypte, jusqu'au point où les Égyptiens vont penser à entreprendre des négociations. Ils vont penser à entreprendre des négociations. Ils ont dit, c'est trop, c'en est un peu trop, on va négocier avec Dieu. Mais comme le texte, l'exposé, le titre de mon exposé ce matin, c'est non négociable. C'est non négociable. Et ce matin, on va voir pourquoi c'est non négociable. On va prier et Julie va nous lire un extrait. Le passage est long, mais nous allons lire juste un extrait de ce texte et on va demander au Seigneur, à l'Esprit Saint, de venir nous parler personne à personne, cœur à cœur, d'esprit à esprit, afin de nous exposer les vérités de sa parole ce matin. Prions. Éternel notre Dieu, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Et ce matin, nous célébrons la Pentecôte où ton esprit s'est manifesté pour la première fois quand tu as envoyé ton esprit sur les disciples. Éternel notre Dieu, ce matin, nous sommes là, pas à cause de nous, mais à cause de toi. Parce que toi, tu es venu à la croix, tu es mort et tu es ressuscité. Et aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Seigneur, c'est confiant de ce que tu as vaincu, que nous pouvons nous approcher ce matin humblement de ton trône de grâce. Seigneur, viens nous parler ce matin. Seigneur, ne permets pas que nous puissions entendre un homme ce matin. Ne permets pas que nous puissions entendre la voix d'une personne ce matin. Permets que nous t'écoutions, toi, le seul vrai Dieu. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Viens parler à notre esprit. Tu sais tout ce dont nous avons besoin, chacun individuellement, chaque personne ici présente. Seigneur, c'est un rendez-vous divin que tu as pris avec chacun d'entre nous. Viens nous parler pour la gloire de ton nom. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom ce matin, donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Julie va nous faire la lecture ce matin.
Ce matin, dans Exode chapitre 10, les versets 1 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Exode chapitre 10, versets 1 à 20. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans tout l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, de ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croisent dans vos champs. Elles rempliront les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. » Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait rapporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël.
Et je lis. Donc, nous venons de lire un extrait du passage, de tout le passage. On va couvrir un peu plus ce matin, un extrait de tout le passage que Julie nous a lu, va du chapitre 9 au verset 13 jusqu'au chapitre 10 au verset 29. Et dans les trois plaies qu'on va voir ce matin, les plaies 7, 8 et 9, les trois plaies constituent en fait une même manifestation de la colère de Dieu, mais qui s'est déroulé comme en trois étapes. C'est la même manifestation de la colère de Dieu qu'on va voir qui se décline en trois étapes. Et c'est ces trois étapes qu'on va voir ce matin. Voilà comment je vais articuler l'exposé de ce matin. Dans un premier temps, on va voir toute la puissance, la rage, la colère de Dieu se déchaîner sur l'Égypte. Et on va voir cette manifestation de la puissance destructrice de Dieu se manifester en Égypte. Et ensuite, on va s'arrêter dans la deuxième partie et on va se poser une question. Face à ce déferlement de puissance, face à ce déferlement de la colère de Dieu, quelle va être la réponse du peuple égyptiens? Quelle va être la réponse de Pharaon? Quelle va être la réponse de ses serviteurs? Voici, bien-aimés, comment je résumerai l'exposé de ce matin. Face à la toute-puissance et à la souveraineté de Dieu, aucune négociation n'est possible. Soumission ou condamnation, fais ton choix. Face à la toute-puissance et à la souveraineté de Dieu, aucune négociation n'est possible. Soumission ou condamnation, fais ton choix. D'abord, la première partie, cette puissance de la colère de Dieu qui déferle littéralement sur l'Égypte. La colère de Dieu s'est abattue sur l'Égypte, comme je vous disais tantôt, en trois temps, de façon à montrer toute sa grandeur. Mais quand Dieu déverse sa colère, il ne le déverse pas de façon aveugle. Dieu prend soin d'avertir son peuple. Dieu prend soin d'avertir même les personnes envers qui sa colère est retournée. Et Dieu le fait toujours, même aujourd'hui. Dieu ne déverse jamais ou n'agit jamais, ne sévit jamais envers qui que ce soit sans au préalable prendre le temps de l'avertir. Et mieux encore, Dieu va prendre le temps de bien insister de façon à ce que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Un avertissement solennel. Dieu, dans les premiers versets, va clairement cibler à qui s'adresse, vers qui et contre qui sa colère va s'adresser. On le voit déjà dans le chapitre 9, les versets 14 à 18, il est écrit « Car cette fois-ci, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que j'étais frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu auras disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom sur toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses pas aller, voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent, Exode 9, 14 à 18. Dieu identifie clairement dans ce passage qui sont les cibles de sa colère. Dieu n'est pas en train de mener une vendetta contre toute la planète. Dieu dit clairement que la cible de sa colère, c'est le Pharaon, ses serviteurs et le peuple d'Égypte. Voici vers qui la colère de Dieu était retournée. Et c'est clair dans le texte. Mais Dieu, dans les premiers plaies, on a vu que c'est comme s'il y avait des dommages collatéraux. Mais ici, il n'y a plus de dommages collatéraux. Dieu connaît clairement sa cible. Dieu va faire des frappes chirurgicales de façon à toucher au cœur de l'Égypte et le Pharaon et ses serviteurs et tout le peuple d'Égypte. Ce qui a été vrai au temps de Pharaon, malheureusement, est encore vrai aujourd'hui. Dieu prendra toujours soin de nous avertir. Et avant d'agir, Dieu va envoyer de façon solennelle ses avertissements. Il va le faire au travers de ses serviteurs. Il va le faire au travers de sa parole. Il va le faire par quelque moyen qu'il jugera bon, mais Dieu le fera. Et on voit en particulier que Dieu prend soin de le faire en particulier vis-à-vis de son peuple pour une raison. Parce que Dieu a renouvelé notre intelligence comme enfant de Dieu afin que nous puissions discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, quand Dieu envoie ses avertissements, quand Dieu envoie des avertissements, soit par sa parole, soit par ses serviteurs ou par quelque moyen qu'il a choisi, Dieu s'attend à ce que son peuple qui a été renouvelé dans son intelligence, puisse comprendre ses vérités. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Pierre nous rappelle dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 1. Pierre écrit ceci, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Dieu le fait toujours comme ça. Il ne frappe jamais. Il ne sévit jamais sans au préalable, de façon solennelle, avertir son peuple afin que son peuple puisse faire le bon choix. Mais la miséricorde de Dieu se manifeste même dans sa colère. Même dans son ardente colère, la miséricorde de Dieu se manifeste. Dieu nous surprendra toujours. Après avoir lu les premiers versets qu'on vient de lire, normalement, si on était à la place des Égyptiens, on devait être paniqué. Parce que l'avertissement de Dieu est vraiment très clair. Mais surprise, Dieu a toujours une surprise. Surprise, Dieu, dans sa grande miséricorde, accorde au peuple une porte de sortie. Il accorde à ce peuple une porte de sortie. Regardons le verset 19 du chapitre 9. « Fais donc, maître, en sûreté les tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouvent dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. » Ce passage sur la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, me rappelle probablement pour les anciens un vieux cantique des ailes de la foi. Miséricorde insondable! Dieu peut-il tout pardonner? Absourdre un si grand coupable et mes péchés oubliés? C'est quelqu'un qui se pose cette question. Et il a raison, il a droit de se poser cette question. Dieu peut-il tout pardonner? Oui. Oui, bien-aimé, Dieu peut tout pardonner. Dieu peut tout pardonner et Dieu était prêt à faire des concessions et à démontrer sa miséricorde envers le peuple de Dieu, non seulement envers le peuple de Dieu, mais aussi envers tous les Égyptiens qui auront obéi à sa parole. Dieu était prêt à faire cette concession. Bien-aimé, vous ne serez jamais trop coupable aux yeux de Dieu. Vous ne serez jamais trop rebelle aux yeux de Dieu au point que Dieu déclare que vous êtes irrécupérable. Il n'y a pas de situation dans laquelle vous pouvez vous mettre, bien-aimé, au point de forcer Dieu à s'avouer vaincu de manifester sa miséricorde et sa grâce envers vous. Parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais bien-aimé, s'il est vrai qu'il y a un temps de miséricorde, il y a aussi un temps de jugement. Et la colère de Dieu va se déchaîner, mais il épargne encore. Regardons ensemble les versets 23 à 25 du chapitre 9. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur tout le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte et tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Quand la colère de Dieu se manifeste, rien ne peut résister sur son chemin. Bien-aimé, ce n'est pas un film d'Hollywood qu'on est en train de scénariser. On est en train de voir une vraie manifestation d'une catastrophe que Dieu a fait pleuvoir sur l'Égypte. Il y a à peine quelques jours au Québec, il y a une grosse tempête dans certaines régions du Québec. Et qu'est-ce qu'on a vu? Beaucoup de familles étaient dans la désolation. Il y avait des dégâts partout dans les régions qui ont été frappées. Il y a des maisons qui se sont effondrées, il y a des routes qui étaient coupées, il y a des toitures arrachées, des arbres centenaires qui étaient par terre. Bien-aimés, si ça c'était une catastrophe, ça n'a rien de comparable avec ce que l'Égypte vivait en ce moment. La situation en Égypte était vraiment catastrophique. Les Égyptiens, mettez-vous un instant à la place des Égyptiens, et imaginez la désolation dans laquelle pouvait vivre ce peuple. Certes, aujourd'hui, peut-être que l'on parlerait d'un phénomène météorologique exceptionnel. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Il n'y a pas de phénomène météorologique exceptionnel s'il n'y a pas un auteur qui a orchestré tous les éléments pour en faire une tempête parfaite. C'est ça la vérité, bien-aimé. Certes, certains ne le croiront pas, Et même un des sages qu'on voit dans la parole de Dieu, Job, qui croyait tout savoir, un jour a été exposé à cette vérité. Dans Job 38, versets 22 et 23. C'est Dieu qui parle à Job, lui qui croit tout comprendre et tout pouvoir expliquer. Alors, Dieu lui pose une question. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Notre Dieu est le maître du temps et de l'espace. Notre Dieu a un contrôle absolu sur tous les éléments dits naturels parce qu'il en est l'auteur. C'est ça, notre Dieu. Et il agit selon son bon vouloir et quand bon lui semble. Mais bien aimé, ce n'est que le début de l'histoire. Phase 1. Phase 2. L'étau se resserre. Après cet épisode terrifiant de grêle, on aurait pu penser que le pharaon avait appris sa leçon. On aurait pu penser. Mais force est de constater que ce n'était pas le cas. Alors Dieu n'avait pas d'autre choix que à nouveau de frapper de nouveau l'Égypte avec une destruction totale. Tout ce que la grêle avait épargné va être complètement rasé, détruit. L'Égypte va connaître une destruction jamais égalée. Même une armée d'exterminateurs venus de tous les coins du pays n'aurait pas pu venir à bout de la vague qui allait déferler sur l'Égypte. Voilà ce que la parole de Dieu rapporte, versets 4 à 6, chapitre 10. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles sur tout l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, de ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans les champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tes serviteurs et les maisons des Égyptiens, de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Bien-aimés, si vous étiez dans cette scène-là, Moïse qui se retire et qui sort de lui-même était un message clair et sans équivoque. On était sur le point d'atteindre un point de non-retour. Et c'était le message que Moïse voulait envoyer. On pouvait lire la peur dans les yeux des serviteurs de Pharaon. Littéralement, quand Moïse est sorti, c'est quand vous parlez avec quelqu'un, il sort en claquant la porte. Ça vous est déjà arrivé? Non, pas souvent. Un peu en couple, parfois. Vous parlez avec votre mari, hop, et il est en colère, il sort, il claque la porte. Vous savez que vous avez atteint ou vous êtes sur le point d'atteindre un point de non-retour. C'est ce qui s'est passé ici. Moïse est sorti. Jamais depuis qu'on nous a raconté cette histoire, Moïse n'a jamais quitté volontairement de devant le Pharaon. C'est la première fois que Moïse sort de lui-même en disant « Assez, c'est assez ». Bien-aimés, les serviteurs, on pouvait lire la peur dans les yeux des serviteurs. Alors ils vont tenter le tout pour le tout. Les serviteurs, ils vont tenter le tout pour le tout parce qu'ils ont compris que leur chef ne comprenait pas grand-chose. Alors, certains serviteurs ont dit, au point où nous sommes arrivés, prendre la parole devant le Pharaon, c'est le moindre mal. Parce qu'on ne pouvait pas parler devant le Pharaon sans être invité. Vrai? C'est un roi. S'il ne vous invite pas à prendre la parole, vous ne pouvez pas prendre la parole, même si vous le servez. Mais pour la première fois, quelques serviteurs vont oser affronter le Pharaon. Les plus courageux vont risquer le tout pour le tout. Verset 7. Les serviteurs du Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ?» Parole de sagesse et de désespoir en même temps. Même cette tentative des serviteurs de Pharaon, bien que le Pharaon sentait qu'il était ébranlé, il persiste et signe. Et la dévastation tombe sur tout l'Égypte. Voilà ce qui est arrivé. Il n'y avait plus de verdure nulle part. Tout ce que la grêle avait laissé, le peu de choses que la grêle avait laissé, venait d'être complètement rasé en un seul instant. Maintenant, j'aime m'imaginer, quand je lis la parole de Dieu, j'aime m'imaginer dans le texte, pas comme si je lisais le texte en dehors. Maintenant, allons-y ensemble en Égypte. Voulez-vous? Allons ensemble en Égypte. Vous, vous êtes égyptien. Vous venez d'être frappé par la grêle. Et comme si ça ne suffisait pas, les sauterelles sont venues tout détruire. Sauf que quand vous regardez un peu au loin, tout était encore vert du côté de chez les enfants d'Israël. C'est quoi? Ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. La maison voisine, tout était parfait encore. Il n'y avait rien, rien n'avait été détruit. Est-ce que vous n'auriez pas une petite idée en tête? Ce sont vos esclaves, hein? Est-ce que vous n'auriez pas une petite idée de faire un tour chez eux dans leur maison et prendre ce dont vous avez besoin, vu que vous, vous n'avez plus rien? Cette idée probablement a effleuré l'esprit de tous les Égyptiens. C'est pourquoi Dieu va envoyer la neuvième plaie. Neuvième plaie, il n'y a plus d'échappatoire. Dieu coupe toute possibilité aux Égyptiens de pouvoir faire quelque réaction que possible. Voilà ce que la Bible nous rapporte dans les versets 22-23. Poussés dans leur dernier retranchement, Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Amen. Bien-aimés, ces ténèbres avaient un double objectif. Le premier objectif, c'est d'immobiliser les Égyptiens qui avaient peut-être en quelques instants pensé qu'ils auraient pu aller dans les autres maisons faire quelque chose. La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas bouger. Pendant 3 jours, personne ne pouvait bouger de sa place. Mais ces ténèbres aussi étaient le symbole de la noirceur spirituelle dans laquelle l'Égypte entière, le pharaon, ses serviteurs et tout son peuple étaient plongés. Bien-aimés, malheureusement, notre monde aujourd'hui aussi connaît cette réalité. Si Pharaon et son peuple étaient plongés dans ces ténèbres, c'est parce qu'ils avaient refusé la lumière que Dieu voulait leur donner. Ils avaient dénigré par désobéissance, par insoumission, la lumière qui était venue de Dieu. Et notre monde aujourd'hui connaît la même réalité parce que nous préférons les ténèbres à la lumière. Voilà ce que l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 19 nous rapporte. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Christ est la lumière du monde. La Bible nous dit que c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que vous êtes, et c'est ce que je suis, et c'est ce que nous sommes. Amen. Parce que nous avons préféré cette lumière que de désobéir et d'être dans les ténèbres. Bien-aimés, voilà qui sommes-nous. Maintenant qu'on voit toutes les 3 phases de la manifestation de la colère de Dieu, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, on peut maintenant essayer d'imaginer quelle va être la réponse de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Ils vont répondre quoi à tout ça? À cette puissance qui a déferlé sur eux. Regardons ensemble quelle doit être notre réponse, quelle doit être ta réponse face à la souveraineté de Dieu. Force est de constater que l'attitude de Pharaon nous paraît insensée, n'est-ce pas? On aurait pu penser, il aurait pu comprendre, le message semblait clair. Mais force est de constater qu'aujourd'hui encore, même à l'instant où on se parle, partout dans le monde, on peut constater que nous avons cette attitude comme enfants de Dieu, comme tout simplement être humain, nous avons cette attitude face à la souveraineté de Dieu, surtout quand il est question de soumission et d'obéissance. Bien-aimés, la négociation n'est pas une option. Le premier réflexe de Pharaon a été de négocier. Nous sommes tellement convaincus que nous sommes tellement intelligents que nous pouvons, grâce à notre sagesse, peut-être faire plier Dieu un peu de notre côté. Nous pensons que nous pouvons entamer des pourparlers avec Dieu dans différentes situations. Mieux encore, nous estimons que nous avons même une carte dans notre manche à laquelle Dieu ne peut pas résister. Un atout que Dieu ne pourra pas refuser. Alors Pharaon va faire la même chose. Il va tenter sa chance. Il propose à Dieu de conclure un marché. Fin des hostilités contre libération de ton peuple. C'est le premier marché que Pharaon propose à Dieu. Regardons le verset 28, chapitre 9. Voilà ce que Pharaon dit. Il dit, c'est donnant-donnant. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre, ni de grêle, et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus. Bien-aimés, considérez combien de fois vous vous êtes retrouvés dans cette situation, dans une situation du moins semblable, vis-à-vis de Dieu, alors que tout ce que Dieu vous demandait, c'est de se soumettre à sa parole. Comme Pharaon, nous sommes souvent convaincus de notre coup que nous tentons de négocier avec Dieu. Mais malheureusement, il n'y a pas de négociation. Pas de négociation possible. Qu'à cela ne tienne, souvent, cela ne nous refroidit pas. Nous avons toujours un joker. Nous avons toujours un joker que nous pouvons faire jouer. Alors, Pharaon tente aussi son joker. Il va tenter d'être plus malin que Dieu. Je ne sais pas si cette phrase dit quelque chose. Être plus malin que Dieu. Versets 10 à 11. Chapitre 10. Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous. Comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Et l'on les chassa de la présence de Pharaon. Bien-aimés, le Pharaon tente une technique. C'est la technique de confusion. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est le oui-non. C'est une technique qui a fait ses preuves avec les enfants. Moi, mes filles me connaissent assez bien. Moi, j'ai cette technique-là. Quand elles me demandent quelque chose, quand je réponds, on va voir. Le « on va voir », c'est la technique du oui-non. C'est-à-dire que vous dites oui pour faire croire que vous êtes d'accord, et un instant d'après, vous dites non. Donc, la personne est dans la confusion. Il ne sait plus si vous avez dit oui ou non. Alors, Pharaon a tenté sa chance. Donc, Pharaon dit, « Ok, non, allez-y, vous les enfants et tout le peuple, oui, vous pouvez aller. » Et, « Non, vous n'irez nulle part. C'est juste les hommes qui vont y aller. » Bien-aimé, la technique du oui-non. Et pourtant, la Bible est claire. Que ton oui soit, oui. Et que ton non soit, ce qu'on y ajoute vient du. Bien-aimé, Pharaon l'a appris à ses dépens. Mais ça ne s'arrête pas là. Pharaon appela Moïse, verset 24 du chapitre 10. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Vos enfants pourront aller avec vous. » Bizarre. Maintenant, Pharaon fait une concession. C'est la première réelle concession que Pharaon fait. Vous pouvez aller avec vos femmes et vos enfants, sauf votre troupeau. Et si vous n'étiez pas convaincu de la mauvaise foi de Pharaon, voici la preuve. Comment voulait-il qu'ils aillent faire des sacrifices à l'Éternel sans leur troupeau? C'était simplement une autre manière bizarre de dire « Je ne vous autorise pas à y aller ». Pharaon a plus d'un tour dans son sac. Si ça n'a pas fonctionné, il va utiliser d'autres techniques. Technique que j'appelle une reconnaissance du bout des lèvres. On le voit dans le chapitre 9, verset 27 et le verset 34. Voici ce que le Pharaon déclare. « J'ai péché, nous sommes coupables. » Le Pharaon dit, fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Verset 34. Pharaon, voyant que la pluie et la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Waouh! Si vous aviez juste lu la première partie du texte, vous auriez dit, quel homme sage! J'ai péché. Nous sommes coupables. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. Quelle sagesse, quelle humilité! Mais quand on voit la fin du texte, on comprend quelles étaient les vraies intentions de Pharaon. Mais la déclaration suivante est encore plus éloquente. Et vous direz même, ça c'est un homme rempli de lucidité et de sagesse. Versets 16 et 17, chapitre 10. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois-ci seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Waouh, il avait enfin compris. Diriez-vous, il avait enfin compris. Mais bien aimé, Dieu n'est pas dupe. Dieu ne se contente pas de nos belles paroles. Nous pouvons faire la prose. Nous pouvons même faire de la poésie si ça nous tente. Nous pouvons même chanter si cela nous tente. Sauf que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde nos cœurs. Ce n'est pas nos paroles qui importent aux yeux de Dieu, mais Dieu voit notre cœur. Il sonde nos cœurs et nos reins. Il sait mieux que quiconque que même son peuple, parfois l'honore seulement des lèvres, mais son cœur est éloigné. Mais son cœur est éloigné. Voilà le rappel que la parole de Dieu nous fait dans Galates 6, 7 à 8. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème de sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dieu ne veut pas un cœur qui le reconnaît seulement du bout des lèvres. Dieu veut un cœur entier, un cœur total. Et cette fois-ci encore, Pharaon va la prendre à ses dépens. Pharaon pensait qu'il avait plusieurs options. Il en a tenté quelques-uns que nous venons de voir. Mais en réalité, Pharaon n'avait pas plusieurs options. Il n'avait qu'une seule option, un seul choix, soumission ou auto-condamnation. C'était les seuls choix qui étaient devant Pharaon. Certains serviteurs de Pharaon, ils ont très vite compris la leçon, dès le début. Certains ont saisi l'opportunité que Dieu leur offrait de faire un choix éclairé au début du texte qu'on a lu ce matin. Regardez avec moi, chapitre 10, le verset 20. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans leur maison leurs serviteurs et leurs troupeaux. Waouh! Il y en a qui ont obéi. Il y en a qui ont compris la leçon. Il y en a qui ont obéi. Certains serviteurs, on n'a pas dit des serviteurs de l'Éternel, sont des serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel. Ils ont obéi au commandement que Moïse a donné. Et à cause de cela, cette plaie n'a pas touché certains Égyptiens parce qu'ils avaient obéi. Quelle porte ouverte sur la grâce pour toutes les nations. Même au cœur de la tempête en Égypte, Dieu avait un plan et était prêt à sauver les Égyptiens contre qui sa colère était retournée. Waouh! Un Dieu de miséricorde. Un Dieu de miséricorde. Mais le Pharaon, lui, va choisir une voie différente. La désobéissance. L'autocondamnation. Regardez les versets 28 et 29. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Parfait. « Tu l'as dit, » répliqua Moïse, « je ne paraîtrai plus en ta présence. » Je laisserai le pasteur Yannick compléter la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va arriver après? ce passage et cette auto-condamnation du Pharaon fait écho à un passage que vous connaissez probablement très bien dans l'épître de Paul aux Romains. Voyez-vous, quand nous décidons de désobéir à Dieu, de ne faire qu'à notre tête, ce qui arrive souvent, c'est que nous nous obstinons contre la souveraineté de Dieu. Et le pire, c'est que nous pensons qu'il y a une alternative. Nous pensons que nous pouvons ne pas obéir à Dieu et trouver une alternative crédible. Ce faisant, nous sombrons nous-mêmes dans un profond égarement. Et ce n'est pas Dieu qui nous condamne. Non, Dieu ne nous condamne pas. C'est nos propres paroles et nos propres actions qui nous condamnent désormais. Et Paul va le dire en mots très clairs. Il le dit dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 1, versets 18 et 25. La colère de Dieu se manifeste, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs propres pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi le Créateur au lieu, la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Bien-aimés, j'aurais pu continuer à nous plonger dans cette histoire. Mais j'aimerais simplement conclure ce matin et inviter l'équipe de louanges à venir. J'aurais pu tout simplement conclure ce matin en vous rappelant le résumé de l'exposé de ce matin. Face à la toute-puissance et à la souveraineté de Dieu, aucune négociation n'est possible, bien-aimés. Pas de négociation possible. Soumission ou condamnation, fais ton choix. Fais ton choix. Face à la puissance et à la souveraineté de Dieu, aucune négociation n'est possible, bien-aimé. C'est la soumission ou la condamnation. À toi de faire ton choix. Mais je vais laisser la parole de Dieu l'exprimer mieux que je peux le dire. Deutéronome 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. Et plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes de Dieu ont expérimenté ce choix et ont fait le choix de choisir la vie plutôt que la mort, la bénédiction plutôt que la malédiction, et ont encouragé le peuple de Dieu à faire ce choix-là avec eux. Voilà un exemple que nous laisse la parole de Dieu, celui de Josué, qui dit dans Josué 24, le verset 15, Josué 24 au verset 15, il dit ça au peuple de Dieu rassemblé. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, c'est un choix. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Remarquez que les deux derniers passages que je viens de vous lire sont quelque part les dernières recommandations de Moïse et de Josué pour le peuple de Dieu. Un peu comme des paroles de leur testament final qui est parvenu jusqu'à nous. Bien-aimés, face à la puissance et à la souveraineté de Dieu, aucune négociation n'est possible. C'est la soumission ou l'auto-condamnation et tu as le choix ce matin. Puisse le Seigneur nous aider à faire ce choix éclairé. Prions. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Éternel, sois béni. Merci de ce que tu nous mets devant un choix éclairé. Tu as renouvelé notre intelligence afin que nous puissions voir et comprendre les avertissements que tu envoies à ton peuple. Seigneur, permets-nous de choisir ce matin et de faire le bon choix pour la gloire de ton nom. C'est en Jésus-Christ et pour sa seule gloire que nous prions. Amen.